Bonjour Monsieur Mermet, je regarde le résultat des élections à Corbeil-Essonnes et je vois Dassault Serge réélu 50,65%, 6621 voix. Alors je ne sais pas dans les régimes gauchistes qu'est-ce qu'on va faire de ces 6621 personnes qui ont voté Serge Dassault malgré les dictats de là-bas si j'y suis. Vous allez ouvrir un nouveau goulag, un nouveau laogai. Il va falloir rééduquer ces 6621 personnes. Quelle horreur. Alors bien sûr, évidemment, c'est pas dans notre ville. Évidemment, quand on y a les bobos, les assistés, c'est-à-dire les très aidés, les très aisés qui forment maintenant les gros bataillons de la gauche et de l'extrême gauche. Incroyable. À Corbeil-Essonnes, il y a 6621 personnes qui n'ont pas suivi les ordres du grand Daniel Mermet et de la désinformation et du terrorisme intellectuel de France 5 Terre. Oh là là, vraiment. Oui, je crois que ça vaut le coup de... Il faut absolument ouvrir un goulag à Corbeil-Essonnes.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de là-bas. Je viens d'apprendre que Serge Dassault, 82 ans, a été réélu à Corbeil-Essonnes avec 170 voix d'écart face à la liste de gauche menée par Bruno Piriou. Monsieur Dassault, pourrait-il nous indiquer le montant total des enveloppes qui lui ont permis de racheter sa réélection? Ça coûte combien, 170 voix? Ben, la racaille en col blanc a encore quelques beaux jours devant elle, dans la banlieue d'Essonnes. Je souhaite beaucoup de courage aux opposants de ce système mafieux dans cette commune. Surtout, ne baissez pas les bras. Continuez à résister. Bonne journée à tous.
Bonjour, mon cher Daniel. Bonjour à tous les auditeurs. Oui, c'est un corbeil-essonnois désespéré qui appelle en constatant que le compteur s'est arrêté au 19e siècle à Corbeil-Essonnes, où un patron tout-puissant, industriel et milliardaire peut payer ses électeurs pour qu'ils puissent être réélus. Voilà. C'est bien, voilà. Vive les patrons puissants et tout leur argent.
Bonjour, je suis Jacques Picard, conseiller municipal vert de Corbeil-Essonnes. J'ai été pendant 13 ans en opposition à Serge Dassault au conseil municipal et un des artisans de la dénonciation à mes risques et périls d'un système généralisé de distribution d'argent privé, l'argent de ce maire milliardaire. Ce maire l'a dit, je fais ce que je veux de mon argent. En fait, c'est le rapport d'une partie de la population la plus en difficulté à l'action publique qui est dans notre ville totalement pervertie. Cyniquement, et comment lui en vouloir, celle-ci dit, tant qu'il est là, prenons. Et c'est par dizaines de milliers d'euros que Serge Dassault a acheté des voix et gagné ses élections de 168 voix, alors qu'il avait fait 43% au premier tour, avec l'appui des groupes, disons, les moins recommandables de cette ville. Face à ce système politico-mafieux, j'appelle à la création d'un comité de vigilance républicain. J'appelle toutes les personnes qui croient encore aux valeurs de la République, qui pensent que la citoyenneté n'est pas un vain mot, à se joindre à cette démarche et à se retrouver devant l'hôtel de ville pour le premier conseil municipal, samedi après-midi à 15h. Merci.
Je vous cache pas que je déteste écouter le répondeur de la base si j'y suis le lendemain des victoires socialistes. Parce qu'alors là, on a des enthousiasmes comme si c'était la gauche qui avait gagné. Il faut pas déconner, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le Parti Socialiste qui a gagné, hein. Et la vague rose, c'est quand même pas la gauche. Alors, je sais pas, moi, hein. Mais ça m'énerve un peu. C'est comme en 2004, la dernière fois, c'était ça. Alors, on avait eu les grandes victoires, les régionales. Ouais, bravo, la gauche a gagné. Et on a sorti quoi de ça? La candidature de Ségolène Royal au présidentiel. Alors, je sais bien. Bon, j'habiterai à Amiens, j'avoue, j'aurais peut-être voté à gauche. Parce que pour s'acquérir au bien, ça valait la peine. Ça, je dis pas. Bon, il y a eu quelques messages nuancés aussi. Des gens qui ont dit, maintenant, on va les surveiller. Bon. Mais, je sais aussi qu'une victoire de la gauche, entre guillemets, c'est-à-dire du PS, est la condition nécessaire à une défaite de la droite. Mais quand la gauche ne croit plus, ou du moins ne défend plus les valeurs de gauche pour des raisons soi-disant électorales, on peut être enclin à se demander si une victoire d'un candidat ou d'une liste de gauche est vraiment une victoire de la gauche. Je sais pas moi, c'est un peu comme si le 10 mai 81, les gens de gauche s'étaient joyeusement exclamés « Chic !» chic, c'est plutôt une expression de droite. « Ouais, la gauche a gagné !» C'est pourtant la gauche victorieuse en 81 qui a conduit la politique de la modernisation des entreprises, la libéralisation du marché, la construction de l'Europe libérale avec monnaie unique et traité constitutionnel dans son sillage, l'ouverture du capital des grandes entreprises nationalisées. Alors ayons le triomphe un peu modeste. Bon. Bon, c'est bien de se débarrasser de quelques personnages assez nauséabonds.
Allô, bonjour Daniel. Je viens d'écouter ton émission avec l'écrivain Abraham Bourg, là, et c'est vraiment, ça m'a fait chaud au cœur d'entendre ça. De la bouche d'un écrivain israélien, j'ai réentendu toutes les discussions que j'ai eues pendant pas mal d'années de militantisme avec des organisations pro-palestiniennes, des organisations, des associations antiracistes et anticolonialistes. Et vraiment, on avait exactement les mêmes sujets de discussion et ça fait plaisir d'entendre ça sur une grande chaîne de radio nationale, d'entendre que ce chantage à l'antisémitisme et notamment l'argument de la Shoah qui est sans cesse utilisé de manière détournée de sa vraie valeur humaniste, puisqu'il faut quand même rappeler aux auditeurs que c'est un crime contre l'humanité, donc ce n'est pas la propriété des juifs ou des sionistes, hein, ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale et du massacre et du génocide des juifs par les nazis, mais c'est une responsabilité qui incombe à l'humanité entière. Nous en sommes tous responsables et nous en sommes témoins de ça. Et ce n'est pas uniquement aux juifs ou aux israéliens de s'accaparer ce qui s'est passé. C'est fondamental. C'est pas pour rien que ça a été nommé crime contre l'humanité. D'entendre ça de la bouche d'un Israélien comme ça, ça fait vraiment très plaisir. Et puis tout le reste de l'émission, vraiment, ça m'encourage à espérer encore peut-être, je sais pas, un état pour les deux peuples, ce qui aurait dû être dès le départ d'ailleurs le cas, quoi. Et j'espère que de tout cœur, j'espère que les Israéliens et les Palestiniens réussiront à cohabiter. Et j'ai une pensée vraiment aussi émue aux Palestiniens actuellement, parce que vu ce qu'ils endurent, vraiment, il serait temps qu'on se réveille et qu'on arrête de flipper de ces quelques intellectuels malveillants et qui travaillent je sais pas pour quelle autre organisation.
Bonjour à tous les auditeurs, bonjour Daniel, et merci mille fois pour l'émission d'hier, lundi. C'était absolument extraordinaire d'entendre Abraham Mourg parler ainsi d'Israël, parler ainsi du judaïsme et parler ainsi de la Shoah. C'était un moment absolument fabuleux. J'attends avec impatience cet après-midi, et en attendant, je téléphonais juste pour te dire, pour lui dire à lui combien c'est vrai. Les Juifs, l'histoire des Juifs, ça ne se résume évidemment pas à la Shoah. Et je voudrais tant que les jeunes et les moins jeunes se souviennent de tout ce qu'il y avait avant. Pour moi, c'est évident, c'est les Juifs, c'est Maïmonide, ce sont les innombrables savants, les innombrables sages qui ont jalonné l'histoire de France et d'Europe. C'est aussi quelque chose qui m'est très cher, les shtetls d'Europe de l'Est, avec le yiddish, avec l'influence qu'ils ont eue et l'influence qu'ils ont reçue des pays germaniques et des pays slaves. Les juifs aussi, plus près de moi, c'est le vieux bonhomme qui m'a fait visiter la mosquée de Djerba. C'est aussi David, le petit cordonnier juif qui recevait, on en a tellement parlé, qui recevait les enfants à Rabat, les enfants dans le quartier du phare, de la corniche, où tout le monde vivait ensemble dans les années 50-60. C'est aussi un souvenir d'un village d'Alsace où il y avait Léon, donc le tailleur, qui habitait à côté de chez mon oncle, qui tenait une mercerie, et j'allais jouer chez lui. Voilà, toutes ces images lumineuses de ces différents juifs que j'ai croisés au cours de mon existence. J'oubliais un très très cultivé, très savant médecin parisien qui était le père de ma meilleure amie lorsque j'étais en classe à Saint-Mandé. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire à Daniel et à son invité. Et moi qui suis née en 42, évidemment, je suis née pendant la Shoah. C'est dur de naître en 42, surtout en Alsace. Mais mes parents ont voulu m'épargner, donc j'en ai entendu parler beaucoup plus tard. Et j'ai eu le temps de connaître beaucoup de ces figures et d'aimer beaucoup de ces aspects de la culture. Et je crois que hier, l'émission d'hier mettait bien l'accent là-dessus. Il disait, si la Shoah est partout, la Shoah n'est nulle part, et c'est très 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 vrai. Donc merci encore, et Je vous embrasse tous. Je signale en passant que je suis membre très actif dans l'association France-Palestine Solidarité. Au revoir.
Unanimité sur l'émission d'hier avec Abraham Bourg, effectivement, étonnant, lumineux, stimulant. Je rappelle le titre de son livre, « Vaincre Hitler », qui vient juste de sortir. Il est chez Fayard. Alors aujourd'hui, on continue sur le même thème. Le Salon du Livre, vous le savez, est consacré au 60e anniversaire de la naissance d'Israël. Et 60e anniversaire de la naissance d'Israël, ça veut dire aussi le 60e anniversaire pour les Palestiniens de la catastrophe, la Nakba. Ce soir, à 19h30, au Salon du Livre, en marge du Salon du Livre, avec Dominique Vidal, il y a un grand débat. Comment Israël expulsa les Palestiniens il y a 60 ans? Et c'est une question fondamentale dans l'histoire, car la résolution du problème israélo-palestinien passe d'abord par la question du retour des réfugiés palestiniens, et la question du retour des réfugiés palestiniens passe d'abord sur cette page d'histoire. Y a-t-il eu expulsion ou exode de ces 800 000 arabes palestiniens des territoires? Aujourd'hui, la thèse officielle de l'exode devient obsolète, et si c'est le cas, eh bien on le doit à ceux qu'on appelle les nouveaux historiens, qui depuis une vingtaine d'années se sont employés à démolir cette thèse officielle. Mais évidemment, c'est pas fini, et puis si ces nouveaux historiens ont mis à jour les mêmes faits, ou à peu près les mêmes faits, à partir d'archives, ils n'en tirent pas les mêmes conclusions. Il y a celui qui voit un crime contre l'humanité, il y a celui qui voit un péché originel qu'il faut admettre pour le dépasser, et puis il y a un troisième qui dit, bah voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et on doit se salir les mains. C'est le cas, par exemple, de Benny Morris. Benny Morris est un grand historien israélien, un pionnier de cette nouvelle histoire israélienne, qui a soudainement renié ses premières conclusions et qui en est venu à faire accepter ce péché originel d'Israël. C'est ainsi que Dominique Vidal, dans un livre fameux, avait qualifié ces pages d'histoire qui, encore une fois, sont capitales pour la paix au Proche-Orient, et donc, par voie de conséquence, c'est quelque chose qui nous concerne. Donc voilà notre sujet aujourd'hui. Autre chose, merci à tous ceux qui étaient à l'espace Saint-Michel hier soir. Et ce soir, à nouveau, projection d'extraits de Chomsky et compagnie avec Normand Baillargeon. Ce soir, alors venez nombreux, c'est à Pontoise, au cinéma L'Utopia, c'est 14 rue Alexandre Prachet, 95-300, Pontoise, Utopia, donc j'essaierai d'y être. En tous les cas, Normand Baillargeon y sera, et puis les extraits de Chomsky. Et puis aussi, on est très heureux des messages que vous nous adressez, des messages de témoignages, d'histoire, sur mai 68. Mai 68, une histoire confisquée, ben, il nous appartient aux uns et aux autres de nous réapproprier cette histoire. Et vous avez vécu cette époque, vous avez quelque chose à raconter, un détail, au contraire, le cœur même de l'histoire, eh bien vous avez un numéro de téléphone qui est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, donc, débat sur l'histoire fondamentale d'Israël. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
De Dieu, c'est Nicolas qui revient demain au plateau. Si, mon tête hier, je te dis. Il vient, il a dit qu'il allait fêter tous les heures la réélection. Ah ben attends, va falloir qu'il mette les raquettes là, parce que la neige s'est tombée ce week-end, et ben, les talonnettes, ça va pas suffire pour dépasser le bout du nez. Allez, adieu, non.
Salut à tous, j'appelle pour communiquer que la prochaine soirée repère de Montpellier aura lieu ce vendredi, le 21 mars à 20h, au bar Le Dôme, qui se trouve à l'angle de l'avenue Clémenceau et du cours Gambetta. Voilà, venez nombreux, salut.
Salut, avec Guy Vanctil et Renaud Lambert à la traduction, c'est Daniel Mermel à Basse et j'y suis, avec Dominique Vidal, Avish Laïm, Milan Papé. Comment Israël expulsa les Palestiniens?
Flight number 2, arriving from...
Voilà, dans quelques instants, à 19h30, au Salon du Livre, à la Porte de Versailles, on risque d'assister à un petit événement ou un grand événement. Vont se trouver réunis un certain nombre de chercheurs, d'intellectuels, d'historiens, de journalistes, autour d'une question très très importante pour l'histoire d'Israël et pour l'avenir du conflit israélo-palestinien, qu'on va provisoirement appeler comme ça. Il suffit de dire ce mot pour qu'immédiatement on conteste l'expression. Mais c'est un sujet très très important. Et j'ai dit chercheur, j'ai dit historien, j'ai dit journaliste, etc. Et on sait que cette année, le Salon du Livre, qui est consacré à Israël, a fait le choix de ne recevoir d'Israël que des écrivains de fiction israéliens. Il y a un seul palestinien d'Israël qui a été invité. Évidemment, ça n'a pas manqué de susciter, comme vous le savez, des controverses et des boycotts. Alors, on a avec nous Dominique Vidal, que vous connaissez, qui est historien, qui est journaliste au Monde diplomatique et qui est l'instigateur de cette rencontre, de ce soir, au Salon du Livre. 20 ans de nouvelle histoire, Israël face à son passé, c'est le thème de cette rencontre. Et Dominique Vidal, pourquoi avoir organisé, parce que c'est vous l'organisateur, avec toute une série d'éditeurs, La Découverte, L'Atelier, Fayard, La Fabrique, Buchet-Chastel, pourquoi avoir organisé cette rencontre alors qu'en fait, aucun de vos invités n'était invité?
Ben c'est, voilà, la réponse est dans la question, si j'ose dire. C'est parce que les nouveaux historiens israéliens et ceux qui les commentent n'étaient pas invités qu'on a pris l'initiative avec leurs éditeurs français de les faire venir. Avec un double enjeu, vous l'avez dit, mais je le confirme, un enjeu de caractère historique. Que s'est-il passé en 1948? Que s'est-il passé ensuite? Pourquoi ce conflit? Et évidemment, cet enjeu historique a aussi une dimension politique. C'est pas par hasard que mon livre est préfacé par Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à Paris et aux Nations Unies, et qu'il y dit quelque chose de très important, c'est qu'il n'y aura pas de paix tant qu'Israël n'aura pas reconnu sa part de responsabilité dans l'expulsion des Palestiniens, et que de ce point de vue, les nouveaux historiens, dont fait partie notre ami Avish Laïm, ici présent, ils ont apporté, ils apportent une contribution tout à fait importante, non seulement à l'érudition historique, mais aussi à la recherche de la paix.
Alors, on a la chance d'avoir avec nous Avish Laïm. On essaiera d'avoir Ilan Papé au téléphone depuis l'Angleterre où il habite. Ces deux noms, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire d'Israël, sont les plus prestigieux des ceux qu'on a appelés les nouveaux historiens, c'est-à-dire ceux qui, à partir d'archives, un travail extrêmement profond, on va dire, ont mis en lumière ce que vous aviez appelé, Dominique Vidal, le péché originel d'Israël. Le nom de Dominique Vidal est associé à ce péché originel d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il est si important qu'on se penche sur cette question et en quoi ça nous concerne? C'est ce que vous dites et répétez tout le temps. Si on veut la paix, il faut d'abord qu'on règle cette question. On a l'impression que c'est aussi important que ça.
Disons les choses simplement, et ça concerne non seulement la France, mais l'ensemble de la communauté internationale et des Occidentaux en particulier. Le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de partager la Palestine en deux, un État juif, un État arabe et une zone internationale pour Jérusalem. Un an et demi plus tard, et après la guerre de 48, c'est tout à fait un autre paysage qui apparaît. On a un État d'Israël qui est né, qui s'est agrandi d'un tiers, qui a expulsé 800 000 de ses habitants palestiniens, c'est les 4/5 de ses habitants palestiniens. Et de l'autre côté, l'État arabe est mort-né, partagé entre Israël, évidemment, la Jordanie et l'Égypte. Eh bien, à partir de ce moment-là, le Proche-Orient est en guerre. Et cette guerre ne se réduit pas, évidemment, à la seule expulsion des Palestiniens, mais c'est un des cœurs, sinon le principal cœur de ces 60 années de guerre, c'est qu'un peuple n'a pas eu le droit à l'autodétermination, alors que l'autre l'avait eu. Et au fond, il y a eu une espèce de, comment je dirais, de fantasme chez les dirigeants israéliens de l'époque, c'est que ce peuple allait se dissoudre, puisqu'il était arabe, parmi les autres peuples arabes. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et le refus de l'autodétermination des Palestiniens a plongé le Proche-Orient dans cette escalade dans laquelle nous vivons encore. Et de ce point de vue, c'est très important de savoir ce qui s'est passé, non pas encore une fois pour l'érudition, mais parce que si nous avons, passez-moi l'expression, nous les Occidentaux, semé le bordel dans cette région, il faut que nous soyons les premiers à jouer notre rôle pour qu'elle en sorte. Qu'elle arrive à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens, et c'est la clé, évidemment, d'une paix plus large avec les pays arabes voisins. C'est pour ça que c'est important. Encore une fois, ça n'est pas un problème d'érudition, c'est un problème politique central de l'histoire du Proche-Orient, ce que montre très bien le livre d'Avi Shlaim.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux versions. Il y a l'histoire officielle qui dit, oui, il y a 500 000 Palestiniens qui, à cette époque, ont quitté ce territoire pour rejoindre des territoires arabes voisins. Ça, c'est la version qui est toujours dans les livres d'école aujourd'hui ?
Non.
Non, on la veut plus, celle-là. Les historiens ont quand même fait leur travail et ils ont été écoutés. Et puis, il y a la version qui est celle de ces nouveaux historiens. Mais il a fallu attendre combien de temps pour qu'on, justement, pour rectifier cette histoire, pour réviser cette histoire ? Parce qu'il y a deux mots, il y a une lutte entre les sionistes, la version sioniste, et les révisionnistes, on peut dire.
Oui, enfin, sauf que la plupart des révisionnistes sont sionistes. Il ne s'agit pas là d'une bande de gauchistes hystériques. Hein. On parle d'un groupe d'historiens qui ont des opinions d'ailleurs assez diverses, qui ont des méthodologies assez diverses, mais qui ont en commun, je dirais, une chose, c'est d'avoir profité de l'ouverture des archives 30 ans après les événements, les archives israéliennes, qui sont en la matière beaucoup plus démocratique que les nôtres en France, mais aussi les archives britanniques, pour une part, et pour une part des archives américaines. Bref, ils ont été chercher là de quoi réviser, comme vous dites, Daniel Mermet, l'histoire telle qu'elle était racontée par ceux qu'on ne peut pas vraiment appeler des historiens, disons des propagandistes des années 50 et 60. Je dirais quand même, et ça explique la nuance sur les livres d'histoire israéliens d'aujourd'hui, que le temps a passé. Et le travail des nouveaux historiens a fait école. On a même eu un manuel scolaire qui a été publié sous Barak, donc en 99, de Eyal Naveh, qui, je ne dis pas reprenait les thèses des nouveaux historiens, mais reflétait pour une part les thèses des nouveaux historiens. Et donc, je dirais, pour vous préciser peut-être, ou pour changer un tout petit peu ce que vous avez proposé comme débat, le débat autour de la fuite volontaire des Palestiniens, ça c'est fini. Plus personne aujourd'hui ne peut soutenir cette thèse. Il y a quelques diplodocus, il y en a en France, il y en a en Israël. Le vrai débat n'est plus là. Le débat, il est entre ceux qui disent les phénomènes d'expulsion sont nés de la guerre et pas d'une intention ni juive ni arabe, c'est la thèse de Benny Morris, et ceux qui disent non, l'expulsion, elle a été le résultat d'un plan systématique préparé à l'avance et mis en œuvre par la Haganah, par le Palmar, par les groupes d'extrême droite, disons, de l'Irgun ou du Stern, encore qu'extrême droite est un mot un peu rapide. Donc, si vous voulez, le débat a bougé. Et je dois dire que même le tenant principal, qui n'est pas ici, de la thèse de la non-intentionnalité de l'expulsion, Benny Morris, qui est aussi le premier des nouveaux historiens, historiquement, lui-même est entré dans des contradictions insurmontables. Puisqu'il a fait, vous vous en souvenez, on en avait parlé, Daniel, une interview fameuse au quotidien à Haaretz le 8 janvier 2004, dans laquelle il disait « il fallait une épuration ethnique pour que l'État d'Israël soit créé ». Mais alors, s'il fallait une épuration ethnique, alors on ne peut pas dire que c'est le résultat de la guerre et pas d'une intention. Il y a bien eu une intention d'épuration que Benny Morris a exposée longuement, d'une manière assez choquante pour le lecteur, en 2004. Donc, si vous voulez, avec le livre d'Avi Shlaim et avec celui d'Ilan Pappé, on est quand même plus proche, non pas d'un grand complot, c'est pas ça la question, mais d'une volonté de la part des dirigeants sionistes de l'époque de profiter du partage proposé par l'ONU et de la guerre
déclenché par les États arabes, le 15 mai 1948, pour créer un État d'Israël aussi grand et aussi homogène du point de vue de sa population que possible. Ce qui, en termes moins polis, signifie qu'il fallait déraciner et expulser, en l'occurrence, je le rappelle, les 4/5 des habitants palestiniens du territoire conquis par Israël.
Avish Karimi, on ne vous a pas encore donné la parole, c'est que, vous savez, c'est comme les stars. Il y a d'abord les vedettes américaines qui passent en première partie. Il y a les pom-pom girls, après il y a les vedettes américaines.
Vedettes
après...
américaines pour le diplôme, c'est pas vraiment ça.
et après on rentre dans le vif du sujet. Alors le vif du sujet, ben, c'est le titre déjà de votre bouquin, Le mur de fer. Et effectivement, je vois le mur de fer. Et puis j'ai sous les yeux une phrase d'Ariel Sharon de février 2001. Qui dit « La guerre d'indépendance de 1948 n'est pas achevée ». Et entre cette expression « le mur de fer » dont vous allez nous expliquer l'origine et cette phrase fameuse d'Ariel Sharon, il y a comme une sorte de continuité qui se matérialise d'ailleurs physiquement avec ce mur, qui n'est pas un mur de fer, mais qui est un mur quand même entre les territoires palestiniens et Israël. Alors, on commence avec le titre. Pourquoi le titre ?
The origin of the title of my book, The Iron Wall, comes from Zev Jabotinsky, the spiritual father of the Israeli right.
Le titre de mon livre, Le mur de fer, vient de Zev Jabotinsky, le père spirituel de la droite israélienne.
In 1923, Jabotinsky published an article called The Iron Wall.
En 1923, Jabotinsky a publié un article intitulé « Le mur de fer, nous et les Arabes ».
It was a very honest statement of the Zionist position in the conflict with the Arabs.
C'était une expression très honnête du point de vue sioniste dans le conflit avec les Arabes.
He said, "We want a Jewish state in Palestine."
Il expliquait que nous, on veut un État juif en Palestine.
The Arabs are a people and are therefore bound to reject our aim.
Et les Arabes, eux, constituent un peuple et de toute évidence, ils vont rejeter notre objectif.
The only way to achieve the Zionist project is unilaterally and by military force.
Et dans ce sens, le seul moyen de mettre en œuvre le projet sioniste, c'est de façon unilatérale et grâce à la force militaire.
A voluntary agreement between us and the Arabs is not possible.
On ne peut en aucun cas imaginer un accord volontaire entre nous et les Arabes.
The only way to create a Jewish state is behind a wall of Jewish military power.
Et la seule façon de créer un État juif, c'est derrière un mur constitué par le pouvoir militaire israélien.
This is the Iron Wall. The Arabs will hit their head against the wall until they despair of defeating us.
Et c'est ça le mur de fer contre lequel les Arabes vont se cogner jusqu'à ce qu'ils abandonnent tout espoir de prendre le dessus sur nous.
In other words, the only way to deal with the Arabs is from a position of unassailable Jewish military strength.
Et donc, pour le dire autrement, la seule façon de régler le problème qui nous oppose aux Arabes, c'est de créer une citadelle inassiégeable contre laquelle, eh bien, ils se heurteront.
And the main theme of my book is that the Iron Wall strategy wasn't just the strategy of the Israeli right.
Et donc, le thème principal de mon livre, c'est que la stratégie du mur de fer n'est pas uniquement la stratégie de la droite israélienne.
From the beginning, it was also the strategy of the mainstream Zionist movement led by David Ben-Gurion.
Mais que dès le début, ça a été la stratégie aussi du mouvement le plus centriste mené par exemple David Ben-Gurion.
And my book concludes that the strategy of the Iron Wall worked.
Et la conclusion de mon livre, eh bien, c'est que la stratégie du mur de fer a fonctionné.
By 1967, there was an independent Jewish state and a viable Jewish state.
En 1967, on est arrivé à un État indépendant juif, tout à fait viable.
1967 was the great watershed.
Et 1967, c'est vraiment la date charnière.
because now Israel acquired a lot of territories, the West Bank, the Gaza Strip, and the Golan Heights.
À ce stade, Israël avait mis la main sur de nombreux territoires, la Cisjordanie, la bande de Gaza, les hauteurs du Golan.
So from now on, Israel had some bargaining counters. It had land and it could trade land for peace.
Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, Israël disposait de terres qu'elle pouvait mettre dans la balance pour négocier la paix.
Yet the Israeli leaders refused to negotiate. They preferred the land to peace with their neighbors.
Mais les leaders israéliens ont refusé de négocier. Ils ont préféré la terre à la paix.
And the main theme of my book is that throughout its history, and especially since 1967.
Et le thème principal de mon livre, c'est que, à travers son histoire, mais de façon encore plus spécifique à partir de 1967,
Israel has been very ready to use military force.
Israël a fait montre d'une grande disposition à utiliser la force militaire.
And remarkably reluctant to engage in meaningful negotiations with the Palestinians.
A été totalement réticent à s'engager dans un processus de négociation.
And if you want an illustration of this thesis, just look at the events in Gaza in the last 2 weeks.
Et si on veut une illustration de cette thèse, il suffit de regarder à ce qui se passe dans la bande de Gaza depuis les dernières semaines.
If Israel wants a ceasefire, there is only one way to get it.
Si Israël veut un cessez-le-feu, il n'y a qu'une seule façon de l'obtenir.
It is to negotiate with Hamas, the democratically elected representative of the Palestinian people.
Il s'agit de négocier avec le Hamas, les représentants élus démocratiquement des populations.
64% of Israelis favor negotiations with Hamas.
Il y a 64% des Israéliens qui sont en faveur des négociations avec le Hamas.
But the right-wing Israeli government refuses to negotiate.
Mais le gouvernement de droite israélien refuse absolument de négocier.
This is a political problem and there is only a political solution.
C'est un problème politique et on ne peut y trouver qu'une solution politique.
And to go back to Zev Jabotinsky.
Et pour revenir à Jabotinsky,
his strategy had two phases, two stages.
Sa stratégie comportait deux phases.
The first stage was to build up Israel's military power.
La première, c'était de renforcer la puissance militaire d'Israël.
And the second stage was to negotiate with the Palestinian Arabs about their rights and status in Palestine.
Et la deuxième, c'était de négocier avec les Palestiniens au sujet de leurs droits et de leur statut en Palestine.
And the tragedy of the Israeli right is that Israel's leaders, Ariel Sharon and Ehud Olmert today, only adopted the first stage of the strategy of their spiritual father.
Et la tragédie avec la droite israélienne, Ariel Sharon et Ehud Olmert aujourd'hui, eh ben le problème avec eux, c'est qu'ils n'ont gardé que la première phase de la stratégie mise en place par les pères fondateurs.
They refuse to move on to the second stage, which is negotiations with the Palestinians.
Et ils refusent obstinément d'en venir à la seconde phase, qui est celle de la négociation avec les Palestiniens.
So the politicians of the right do not have a peaceful solution to this conflict.
Donc les politiciens de droite n'ont même pas de solution proposée pour ce conflit.
They are the proponents of the doctrine of permanent conflict.
Leur doctrine, finalement, c'est celle du conflit permanent.
Dominique Vidal, un commentaire.
Il y a une question que je voudrais vous poser, Avishtaïm. Au fond, vous nous dites, et vous avez raison, cette doctrine a fonctionné. Mais est-ce qu'elle fonctionne encore ? Parce que quand on regarde ce qui s'est passé pendant la guerre du Liban, où 1,5 million Israéliens ont été sous les roquettes du Hezbollah pendant 33 jours, et au bout du compte, malgré les bombardements, malgré les offensives terrestres, l'armée israélienne n'est pas venue à bout du Hezbollah. Et puis, à un plus petit niveau, on voit les Qassam et les Gad du djihad islamique ou du Hamas qui tombent sur Sderot et maintenant sur Ashkelon.
C'est les roquettes.
Et on ne voit pas l'armée israélienne, l'État israélien capable de trouver une forme de riposte autre que des opérations ponctuelles extrêmement meurtrières, mais qui ne résolvent pas le problème. Et au fond,
Ce que moi je me demande, c'est si le mur de fer aujourd'hui n'est pas ébranlé. C'est-à-dire si, dans ce qu'on appelle les guerres asymétriques, le fait d'avoir 300 têtes nucléaires, des chars, des avions, toute la puissance de feu possible, pour une armée en plus qui est devenue une armée qui fait la police depuis deux intifadas dans les territoires, qui n'affronte plus vraiment d'ennemis, est-ce que le mur de fer fonctionne encore? Est-ce que le mur de fer n'est pas aujourd'hui une doctrine, au fond, obsolète, qui ne permettra pas à Israël de s'en sortir? Et je n'évoque même pas l'hypothèse, mais pourquoi pas, d'une opération américano quelque chose contre l'Iran, à laquelle Israël participerait, et où, dans ce cas, les missiles, les roquettes, pourraient tomber non seulement sur Haïfa ou sur Sderot, mais aussi sur Tel Aviv.
Je fais une petite note, Michel Barchavsky, sur cette question que vous soulevez, Dominique Vidal, a une réponse, une explication qui est de dire que si Israël a échoué au Liban, et si effectivement, par exemple dans le cas que vous citez, la glorieuse armée israélienne n'arrive pas à maîtriser quelques tirs provenant de ce pauvre territoire de Gaza, c'est, dit-il, à cause du mépris du permanent du colonisateur pour le colonisé. En le méprisant, le prenant pour un incapable et un sous-homme, eh bien, c'est comme ça que la stratégie militaire perd de son efficacité.
En tout cas, quelle que soit la cause, le phénomène est là. Pour la première fois dans son histoire, depuis 1948, l'État d'Israël n'a pas rempli ses buts de guerre, n'a pas réussi la guerre qu'il voulait faire, ni au Liban, ni à Gaza.
I'd like to make two points.
J'aimerais dire deux choses.
First, Israel was transformed by the victory of 1967.
Tout d'abord, Israël a été transformé par sa victoire en 1967.
The object of the strategy of the Iron Wall was to deter Arab aggression against Israel.
La stratégie du mur de fer était d'empêcher les agressions arabes contre Israël.
After the 1967 victory, Israel became a colonial power.
Après sa victoire en 1967, Israël est devenu un pouvoir colonial.
On a personal note, I did my military service in the mid-1960s before the June 1967 war.
À titre personnel, moi j'ai fait mon service militaire au milieu des années 60 avant la victoire de 67.
Israel was a small and beautiful country. And the Israeli army was true to its name, the Israel Defense Force.
Et à ce moment-là, Israël était un petit pays absolument merveilleux. Et à cette époque, l'armée israélienne était à la hauteur de son nom officiel, qui est les Forces de Défense d'Israël.
After 1967, there was the occupation. And the Israeli army became an occupying force.
Après 1967, il y a eu l'occupation et les forces armées israéliennes sont devenues des forces d'occupation.
And this completely changed the nature of the Israeli army and its mission.
Et tout ça, ça a totalement changé la mission et la nature des forces armées israéliennes.
And the result was seen in the summer of 2006, during the war, the second Lebanon war.
Et le résultat de tout ça, on l'a bien vu à l'été 2006, au moment de la deuxième guerre avec le Liban.
The mighty Israeli army was unable to deal with a small guerrilla force like Hezbollah.
Les forces armées israéliennes, malgré toute leur puissance, ont été incapables de venir à bout d'une toute petite guérilla du Hezbollah.
So the limits to the use of military force in dealing with the problem.
Donc il y a des limites évidentes à l'utilisation de la force militaire pour régler ces problèmes.
But to come back to your question,
revenir à votre question,
is the strategy of the Iron Wall no longer valid?
Est-ce que la stratégie du mur de fer est réellement obsolète?
I think that it is not obsolete. That it is still the right strategy for Israel.
Je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense que c'est toujours la stratégie de la droite pour Israël.
Yitzhak Rabin was the first Israeli leader to go from stage one to stage two of the strategy.
Yitzhak Rabin était le premier leader israélien à passer de la première phase dont j'ai parlé tout à l'heure à la seconde, celle de la négociation.
He did this by negotiating the Oslo Accord with the Palestinian Liberation Organization.
Il l'a fait en négociant les accords d'Oslo avec l'OLP.
And clinching this historic compromise with the handshake with Yasser Arafat.
Et en scellant ce compromis historique autour de cette poignée de main historique avec Yasser Arafat.
But Yitzhak Rabin was murdered by the enemies of peace.
Mais Yitzhak Rabin a été assassiné par les ennemis de la paix.
The Likud came back to power under the leadership of Benjamin Netanyahu.
Le Likoud est revenu au pouvoir sous la houlette de Benjamin Netanyahu.
And with the Likud back in power, we were back to the strategy of the to phase one of the strategy of the Iron Force.
Et ce retour au pouvoir du Likoud, eh bien, c'était un retour à la première phase de la stratégie du mur de fer.
And there is a debate on why the Oslo peace process collapsed.
Et il y a un débat aujourd'hui sur les raisons pour lesquelles le processus d'Oslo s'est effondré.
One view is that it was doomed to failure from the start.
Un des points de vue, c'est qu'il était de toute façon destiné à échouer dès le début.
My view is that it was not doomed to failure.
Mon point de vue à moi, c'est que c'était pas du tout écrit à l'avance.
It was a step in the right direction.
Ça constituait un pas dans la bonne direction.
And it failed because Israel, under the leadership of the Likud, went back, reneged on each side of the deal.
Mais l'échec est dû au fait que Israël, sous la direction du Likoud, est revenu à la phase numéro 1.
So it's not the Palestinians, it's Israel which is responsible for the impasse in which we find ourselves today.
Et donc l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle n'est pas de la responsabilité des Palestiniens, mais elle est de la responsabilité d'Israël.
Alors, on continue autour de ce thème évidemment passionnant qui est l'histoire d'Israël et l'histoire du originel d'Israël à l'occasion du 60e anniversaire de la naissance d'Israël. On célèbre à l'occasion du Salon du Livre cet événement, mais enfin c'est aussi un événement pour les Palestiniens. Au mois de mai prochain, on va célébrer donc la naissance de l'État d'Israël, mais du côté palestinien, on commémorera de sombres journées et de sombres et de terribles événements. On va se tourner... Est-ce qu'Ilan Pappé est là ?
Oui, oui.
Ah, génial, formidable.
Great.
Donc, on est tous autour de micro, ici à la Maison de la Radio, à Paris. Je suis très content de vous entendre et de parler avec vous. Les auditeurs le voient pas forcément, mais enfin, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas à Paris, malgré l'invitation de Dominique Vidal. Pourquoi ?
Good morning.
Bonjour.
I chose not to come because all the events that take place this week and the week before in Paris that are connected to the Salon des Livres are all come under the title of the celebration of Israel's 60th anniversary.
Je ne suis pas venu parce que tous les événements qui ont lieu sous les auspices du Salon du Livre à Paris pendant tout ce week-end sont au nom du 60e anniversaire d'Israël.
And there's nothing to celebrate.
Et il n'y a rien à fêter.
There is actually a lot of commemoration to be done, and there's a lot of work to be done to undo the evil policies of Israel in the last 60 years.
Il y a beaucoup de commémoration, beaucoup de travail, au contraire, à faire pour pouvoir défaire toutes les mauvaises politiques d'Israël au cours des 60 dernières années.
And in solidarity with my Palestinian and Arab friends who felt offended by the celebration of the Salon without the commemoration of the catastrophe of the Nakba, I decided not to come.
Et c'est par solidarité avec mes amis arabes et mes amis palestiniens, face à ce salon qui refuse de commémorer aussi la catastrophe, c'est-à-dire la Nakba, que j'ai refusé de participer au Salon du Livre.
Ilan Pappé, vous publiez chez Fayard un livre qui s'intitule « Le nettoyage ethnique de la Palestine ». L'expression, évidemment, « nettoyage ethnique » est très violente pour nous, au moins pour ceux de la génération qui a connu l'éclatement de la Yougoslavie et qui se souviennent des termes de purification ethnique. Pourquoi avoir choisi un titre aussi violent ?
Yes, it was not easy to choose that term and paradigm.
C'était pas facile de choisir ce titre.
But after looking again at the evidence of what happened in 1948.
Mais en regardant les preuves de ce qui s'est passé en 1948,
the ideology behind the Zionist policies.
L'idéologie qui soutenait la politique sioniste.
The actual policies on the ground.
Les politiques qui sont menées actuellement sur le terrain.
and the consequences of that policy.
Et toutes les conséquences qu'ont eu ces politiques.
It seems that academically and theoretically, the only way to describe what Israel had done in 1948 is ethnic cleansing.
C'est alors que, académiquement, la seule manière de définir ce qui s'est passé en 48, c'est le terme de nettoyage ethnique.
This is both a legal term.
C'est un terme à la fois juridique
and a moral term.
Et moral à la fois.
And the case of 1948 Palestine is a classical case of ethnic cleansing.
Et le cas de la nettoyage ethnique de la Palestine en 1948 est un cas emblématique, classique de cette politique.
Est-ce que vous considérez qu'il s'agit d'un péché originel, pour reprendre l'expression de Dominique Vidal, ou bien est-ce que vous pensez que c'est un crime?
Well, I think it depends. When you are a devout Christian, you turn.
Ça dépend si t'es un chrétien dévot.
Then you turn a crime into a sin, and you feel
better
about it. Tu tournes
le crime en un péché, et donc tu te sens mieux avec ça.
I'm not a devout Christian.
Je vous avoue, je suis pas un chrétien dévot.
I'm not a devout Jew either.
Je suis même pas un dévot juif. Un juif dévot.
And therefore, I think what Israel committed is a crime against humanity.
Et c'est pour ça que je pense que ce qu'Israël a fait, c'est un crime contre l'humanité.
And until today, did not pay for that crime.
Et jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas payé pour ce crime.
Ilan Pappé, je me demande si vous tirez les mêmes conclusions du même constat historique, d'historien, de scientifique. Est-ce que vous tirez les mêmes conclusions qu'Avishlaïm? Est-ce que ce crime originel contre l'humanité, pour vous, délégitime Israël?
Well, I don't deal with the legitimacy of a state.
Je rentre pas dans le débat sur la légitimité de l'État.
Nor do I deal with the rights of states to exist or not.
Pas plus que sur le droit d'État d'exister ou pas.
I don't have that power and I don't have that obligation.
Parce que j'en ai pas l'obligation et surtout j'en ai pas le pouvoir.
What I do conclude from my historical research.
Mais ce que je tire comme conclusion de mes recherches historiques.
That until Israel is changed, until Israel would become a non-Zionist entity, there will be no peace and no reconciliation.
C'est qu'il n'y aura pas de paix tant que Israël ne sera pas devenu une entité non-sioniste.
In fact, I think that the present political structure of a Jewish state next to a mega prison. Called Palestine.
Et en fait, je pense que la situation actuelle d'un État juif adossé à une méga prison qui est l'État palestinien
is a continuation of the crime of 1948.
Et la poursuite du crime commis en 1948.
Dominique Vidal.
Oui, Ilan, je voudrais vous proposer d'entrer un peu dans le livre, parce que ce serait dommage qu'on ne parle pas du contenu de votre livre. Moi, j'ai été très frappé personnellement par le fait que c'est un livre de maturité, que c'est un livre qui, à la fois, rassemble toutes vos recherches, mais les porte à une étape tout à fait supérieure. Mais il y a quelque chose qui, personnellement, m'a énormément troublé, qui me paraît un élément très fort, même s'il est un élément parmi d'autres. C'est l'histoire du fichier des villages et des villes arabes.
Mm-hmm. Yes, I think that it's the historical evidence shows very clearly that the Zionist leadership, ever since the 1930s, was focused on the idea of the depopulation of Palestine.
Oui, les preuves historiques montrent que dès les années 30, les leaders du mouvement sioniste avaient en tête une politique de dépopulation des zones palestiniennes.
It was busy building the military capacity and the political background to enable it. To carry out.
Et ils étaient occupés à construire la capacité militaire et la capacité politique pour pouvoir mener à bien cette politique.
One of the earlier stages in preparation for the ethnic cleansing.
Une des premières étapes avant le nettoyage ethnique.
Was a very pedantic and systematic registry of the Palestinian rural areas.
Et c'était un enregistrement, un cadastrage et un fichier très très précis de toutes les zones rurales palestiniennes.
The purpose was to find out which villages had the best land, which villages would constitute a problem in the future,
avec le
and
but
so on.
De vraiment voir quels étaient les villages qui avaient les meilleures terres et quels étaient ceux qui risquaient de poser un problème dans l'avenir et ainsi de suite.
One has to say that since 1937 and until 1947, the ethnic cleansing preparation were not the only thing with which the Zionist leadership dealt.
Bien sûr, entre 37 et 47, le nettoyage ethnique n'était pas la seule politique à laquelle le mouvement sioniste appliquait.
They dealt with international legitimacy.
Bien sûr, il y avait les questions de la légitimité internationale.
Immigration. And building the infrastructure of a future state.
Et aussi l'immigration et bien sûr construire les infrastructures d'un État à venir.
But one thing they stopped doing compared to the period before 1937.
Mais une chose qu'ils ont cessé de faire par rapport à la période avant 1937.
They hardly bought any more new land.
Ils n'ont plus acheté aucune terre.
Because the main focus was of taking land by force.
Parce que l'objectif précis était de prendre ces terres par la force.
And not purchasing it.
Et ne plus l'acheter.
I would also like to add that it was a very small clique within the Zionist leadership.
Et je veux aussi préciser que c'était une toute petite clique au sein du mouvement sioniste.
That was preparing the ethnic cleansing.
Qui préparait effectivement ce nettoyage ethnique.
And in fact, until March 1948. Exactly 60 years ago, most of the Zionist leaders were not aware of these plans and preparations.
Et qu'avant mars 48, c'est-à-dire il y a exactement 60 ans de ça, la plupart des leaders du mouvement sioniste n'étaient pas au courant de cette politique sous-jacente.
On the 10th of March 1948,
c'est le 10 mars 1948,
many other leaders, military commanders and officers on the ground,
beaucoup de leaders, de militaires, d'officiers et d'officiers de terrain,
became aware of the plan,
ont alors pris conscience de ce plan,
and became willing executors of it
et
on
ont
the
accepté
ground.
De l'appliquer sur le terrain.
C'est le plan d'Alette. Hein?
Exactly, that is Plan D, which was adopted almost 60 years to the day.
Et c'est presque il y a 60 jours pour jour qu'il a été décidé et appliqué.
On va conclure parce que le temps passe. Je rappelle que on peut se rendre, si on est dans le coin, au Salon du Livre tout à l'heure à 19h30 pour assister à la suite de ce débat, en tous les cas un débat sur ce thème. Il y aura Alain Dikoff, il y aura Amir Haas, Avi Schleim qui est avec nous, Michel Warchavski, Edith Zertal, l'historienne, et puis évidemment Dominique Vidal. Tout ça, je le rappelle, est organisé par une série d'éditeurs, La Découverte, L'Atelier, Fayard, La Fabrique, Buchet, Chastel, et donc 19h30 au Salon du Livre. Une conclusion rapidement, Dominique Vidal.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est peu importe, certains ont boycotté, d'autres n'ont pas boycotté le Salon du Livre. Ce qui est important, c'est, vous vous souvenez sûrement, Daniel, quand on était jeunes tous les deux, il y avait des panneaux dans les gares et au passage à niveau qui disaient « Attention, un train peut en cacher un autre ». Eh bien, au fond, c'est ça qu'on fait ce soir et qu'on vient de faire ici. C'est « Attention, un anniversaire peut en cacher un autre ». L'anniversaire d'Israël, c'est aussi l'anniversaire de l'expulsion de 800 000 Palestiniens. Et je crois que les livres qui sont parus, parce qu'on a parlé de Benny Morris, et c'est normal et c'est correct d'en parler, mais le livre d'Ilan Pappé, le livre d'Avi Schleim, marque une nouvelle page dans tout ce travail historique, qui n'est pas seulement le soubassement d'un travail politique, parce que ce serait réduire l'histoire à peu de choses. C'est aussi un élément absolument déterminant de la création de la paix par la reconnaissance des injustices commises. Et je crois que ça n'est pas une question secondaire que de savoir que les Israéliens, petit à petit, grâce au travail d'Avi Schleim, d'Ilan Pappé et d'autres, se convainquent que quelque chose a eu lieu en 1948 qui était injuste, qui était de l'ordre du nettoyage ethnique, et qui donc doit être réparé, que la création d'un État palestinien, c'est aussi la réparation d'une injustice commise. Et là, on est dans autre chose que simplement de la politique. On est dans l'histoire et on est dans l'humanité.
Voilà, merci à tous. Merci à Dominique Vidal, Avi Schleim et Ilan Pappé. Les traducteurs, c'était Renaud Lambert et Guy Van Til. Comment Israël expulsa les Palestiniens de Dominique Vidal, c'est aux éditions de l'Atelier. Le mur de fer d'Avi Schleim, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Et le nettoyage ethnique de la Palestine d'Ilan Pappé, c'est chez Fayard. Et puis, nous vous recommandons chaudement la revue De l'autre côté, dont le numéro 4, Palestine, l'an 41, vient vient de paraître aux éditions de La Fabrique, avec notamment un papier de Charles Anderlin, et c'est une très belle revue, et puis aussi le numéro de Manière de voir d'avril-mai actuel, Histoire d'Israël 1948-2008, avec des photos inédites de Kappa. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis je vous rappelle, ce soir à Pontoise, au cinéma Utopia, Chomsky et compagnie, avec Normand Bayard-Jouan à la technique aujourd'hui, Antoine Vossa. Mais il est trop tard et il est 16h sur Inter. C'est le moment de la pub.